Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg. On espère que ces débuts de fête de Sukkot se sont bien passés. Et on va avoir comme invité aujourd'hui M. Jean-Louis de Montesquieu. Il a écrit une biographie sur Amin Dada aux éditions Perrin. M. Montesquieu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous pouvez vous présenter un peu à nos auditeurs qui vous êtes.
Écoutez, oui, en deux mots, j'ai été dans la finance pendant à peu près 20-25 ans et depuis que j'ai 52 ans, je suis passé du côté des chiffres aux lettres et j'écris, je collabore à un journal, j'ai publié deux ou trois livres jusqu'à présent et c'est ma première biographie. Je dois dire que cette biographie rejoint mes deux vies en ce sens que j'ai été très souvent en Ouganda parce qu'après avoir été dans la finance, je me suis occupé de petites institutions de microfinance en Afrique orientale et notamment en Ouganda.
Alors, Idi Amin Dada qui a été à la tête de l'Ouganda de 71 à 79, qui est mort un peu dans l'anonymat en 2003 en Arabie Saoudite. Avant de parler d'Amin Dada, il faudrait peut-être qu'on fasse un petit état des lieux de l'époque en Ouganda, état qui est un état colonial dirigé par les Britanniques, avec un président qu'on a nommé, mais qui est beaucoup aussi décrié dans ses actions et dans ses choix. Pouvez-vous nous parler un peu de ce pays qui est encore morcelé par beaucoup de tribus?
L'Ouganda était une des colonies favorites des Anglais. C'était un protectorat, mais bon, c'est quasiment la même chose. C'est un pays extraordinairement attachant et en même temps, je dois dire, assez riche, au moins dans toute une partie de son territoire, avec des tribus très sophistiquées, très bien structurées, et une agriculture qui marchait très extraordinairement bien. Là-dessus, les Anglais ont concédé en 1961 une indépendance un petit peu précipitée, il faut dire, d'autant plus que il n'y avait pas vraiment de pression du côté ougandais. Mais bon, cette indépendance s'est traduite par une première dictature relativement soft, si je puis dire, qui était celle de Milton Obote, qui a été renversée par Amin Dada en 71.
C'est un coup d'État.
Un coup d'État. Ouais. Ensuite, il y a eu 9 ans d'une dictature franchement épouvantable. Et ensuite, il y a eu à nouveau une dictature d'Obote, ce qu'on appelle d'Obote 2, qui s'est accompagné quasiment d'une forme de génocide, puisque certaines tribus ont été vraiment très très malmenées. Ensuite, il y a une guerre civile de 3 ans, franchement effroyable, avec des centaines de milliers de morts. Et enfin, depuis 86, un régime qui n'est pas en bonne démocratie, mais qui tourne, qui est dirigé par un grand opposant à Amin Dada, qui s'appelle Yoweri Museveni. Et aujourd'hui, l'Ouganda est un pays qui se développe très bien, d'une jeunesse incroyable, plus de 50% de la population a moins de 25 ans, et on a découvert du pétrole. Alors, je ne dirais pas que tout va bien, mais
ça va mieux.
Le pays est sorti de son époque extrêmement noire.
Alors, Jules de Montesquieu, on ne va pas revenir sur toute la jeunesse de l'histoire. On va revenir sur Amin Dada. Alors, il est évidemment reconnu en tant qu'un bon militaire, on va dire un militaire qui est apprécié par sa hiérarchie. Et pourtant, ce n'est pas le type qu'on pensait qui allait arriver au pouvoir.
C'est une créature des Anglais, en ce sens que il venait d'une tribu extraordinairement écarté de tout et lui-même avait une enfance plus que miséreuse. L'armée anglaise l'a faite et ensuite il s'est retrouvé un peu par hasard à la tête de l'armée ougandaise nouvellement créée, puis à la tête du pays à la suite d'un coup d'État où il était peut-être un peu instrumentalisé.
Ce qui est bizarre, c'est que finalement, quand on lit votre livre, le coup d'État, il s'est fait relativement... D'abord, d'une façon très rapide, sans trop d'effusion de sang, et ça s'est passé, on va le dire, assez rapidement.
Oui, absolument. Pour deux raisons. D'abord parce que le prédécesseur d'Amin, Obote, était complètement déconsidéré, détesté. Et par ailleurs, il y a eu un énorme soutien étranger, essentiellement anglais et israélien, motivé par le fait que pour les Anglais, Obote était en train de devenir socialiste, et pour les Israéliens, Obote était en train de faire un revirement pro-arabe.
Alors, ce qui est assez exceptionnel dans votre livre, vous l'expliquez en détail et correctement, c'est que finalement, Idi Amin Dada aurait dû être arrêté bien avant. Il était avec, on va dire, plein de casseroles derrière lui. Obote, justement, voulait le faire prisonnier à son retour d'un voyage pour un sommet. Comment il a pu échapper à être arrêté, Idi Amin Dada?
Les Anglais l'ont maintenu. Parce que ils pensaient à tort que c'était le plus bête et le plus malléable, semble-t-il. Ça, c'est ce qui ressort des recherches qu'on peut faire.
Il était illettré, Idi Amin Dada. Il savait pas très bien lire, en tout
alors,
cas.
Alors, il savait lire, mais très mal, et pas écrire. Ça, c'est son ancien premier ministre qui me l'a dit. Enfin, il écrivait, il gribouillait.
Alors,
il n'a aucune éducation en dehors de celle que lui a procurée l'armée anglaise.
Alors, Idi Amin Dada était donc un héros dans l'armée. Vous dites qu'il y avait aussi un soutien de la population à Idi Amin Dada. Comment on peut comprendre ce soutien du peuple ougandais à un tyran comme ça?
Là encore deux raisons. D'abord, son prédécesseur était détesté, donc on a considéré que Amin ne pouvait être mieux que meilleur. D'autre part, c'est un personnage très populaire parce qu'il est sympathique et surtout il était champion de boxe.
Ah.
Il était champion de boxe pendant plus d'une décennie, donc il était très connu. Et enfin, il a joué à fond de l'élément tribal qui est absolument prédominant dans cette histoire. Pourquoi ? Parce que les Anglais avaient, c'était leur forme de colonisation, un peu dressé les tribus les unes contre les autres. Et
séparer pour mieux régner.
Pardon ?
Séparer pour mieux régner.
Ah oui, exactement, oui. Et même pire, certaines tribus étaient volontairement éclatées entre deux, voire trois pays. Mais toujours est-il que Amin Dada était le représentant, l'incarnation des tribus du Nord, des Nilotiques, qui avaient été toujours considérés comme les
pauvres
de cette colonisation.
Oui, autre fait important que Idi Amin Dada lui-même reconnaît et le dit souvent, c'est sa religion. Il est musulman et il en est fier.
Oui, alors sa vraie religion, c'est l'animisme. Sa mère était sorcière et lui-même a beaucoup participé à des tournées dans le pays.
Mais vous le dites dans le livre, il annonçait souvent qu'il était musulman.
Alors ensuite, il était musulman par son père. Il a reçu une éducation musulmane, mais il n'est vraiment devenu musulman que quand ayant reçu les propositions de Kadhafi et du roi Ibn Saoud, du roi Faisal, pardon, il est devenu non seulement musulman, mais l'obligé des musulmans. Et ensuite, il a fait tous ses efforts avec beaucoup, beaucoup de subsides saoudiennes et libyennes pour transformer l'Ouganda en un pays musulman.
Alors, Idi Amin Dada, on le dit, le livre de Jean-Louis de Montesquieu aux éditions Perrin. C'est un livre qui est très, très documenté. Combien de temps pour écrire un livre pareil? Il y a du travail derrière, évidemment. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire?
Deux bonnes années.
Ça a été compliqué de récupérer des infos plus ou moins fiables sur ce qui se passait en Ouganda à l'époque?
D'une part, comme je dis, j'y ai beaucoup été, donc j'ai rencontré des gens. Il n'y a strictement aucune archive, donc ça simplifie le travail, si je puis dire. Pour le reste, il y a des documents essentiellement africains et anglais.
Jean-Louis de...
Exclusive.
Oui.
Oui, c'est oui. Bon.
Alors, Jean-Louis de Montesquiou, Amin Dada, aux éditions Perrin, on va faire une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après. De Rose Laurence qui nous a quitté de cela il y a quelques années. Notre invité ce matin, Jean-Louis de Montesquiou, qui a écrit une biographie sur Idi Amin Dada. Ça s'appelle Amin Dada, tout simplement, aux éditions Perrin. Alors, je voudrais revenir avec vous, Jean-Louis de Montesquiou, sur la participation de l'État d'Israël, on va dire, à la mise en place de Imi Amin Dada, qui était un ami de Barlev, un des généraux israéliens. Cette relation, elle est née comment, ou elle était faite par intérêt?
Dans les années 60, les Israéliens ont développé ce qu'ils appelaient la doctrine périphérique, qui consistait à créer des réseaux d'alliances, notamment en Afrique, pour en quelque sorte prendre le monde arabe à revers. À ce titre, ils ont apporté un énorme soutien à l'Ouganda, à la fois civile et militaire, puisqu'il y a eu des bases aériennes installées dans le pays, et puis une formation de l'armée, tout ce genre de choses. Mais à son arrivée au pouvoir, d'abord Israël était peu coopérant quand il s'est agi de fournir à Amin Dada des armements massifs, notamment parce qu'il voulait envahir la Tanzanie, ce qui était une idée franchement déplorable. Et d'autre part...
Mais c'était des milliers de dollars à l'époque, hein ?
Oui.
C'était une somme énorme qu'il demandait.
Et, D'autre part, Kadhafi s'en est mêlé. Kadhafi était l'âme damnée d'Amin Dada, l'a mis en relation avec à la fois ses origines musulmanes et l'Arabie saoudite, lui a procuré d'argent, de conseils, de mauvais conseils, et en quelque sorte a raflé la mise. Donc avec une certaine réticence au début, mais ensuite avec un enthousiasme immodéré, Amin Dada a trahi Israël au profit du monde arabe.
D'accord. C'est par intérêt.
Essentiellement par intérêt, un intérêt national, bien entendu, également un intérêt personnel, puisque le roi d'Arabie avait procuré à Idi Amin une garantie d'assistance perpétuelle, ce qu'on appelle la YTA, qui d'ailleurs a joué, puisque quand Idi Amin a été renversé, il s'est retrouvé d'abord chez Kadhafi et ensuite pendant une vingtaine d'années en Arabie Saoudite
jusqu'à
où il a fait séjour.
Alors, il y a aussi, dans votre livre, vous l'expliquez aussi, il y a un certain nombre d'affaires qui ont entaché les relations entre Amin Dada et les Anglais, les Français, les Européens. Et finalement, vous dites qu'il y a l'opération Entebbe qui est arrivée, qui a scellé, on va dire, la fin de Amin Dada. Cette histoire d'Entebbe, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase?
Oui, disons... une des grandes gouttes, parce que celle-là, curieusement, ne venait pas de lui. Les autres, c'était des erreurs, des crimes qu'il a commis et qui n'ont cessé d'alourdir son dossier et d'aggraver son cas. Mais Entebbe, opération à laquelle il s'est joint pour des raisons qu'on ne comprend pas vraiment, je veux dire le détournement de l'Airbus d'Air France venant de Tel Aviv, lui a apporté, disons, le tort final. Il a été renversé relativement peu de temps après, quand le monde a compris qu'il...
Alors, vous faites une révélation dans le livre. Vous dites que finalement, contrairement à ce qu'on pense sur cette affaire de l'Airbus, ce serait la France qui aurait demandé à l'Ouganda d'accueillir le vol Air France. Vous confirmez ?
Oui, c'est ce que, si vous, les archives ne sont pas encore ouvertes, mais c'est bien ce qu'a confirmé notamment l'ancien ambassadeur dans le pays. Et ça peut se comprendre dans la mesure où on cherchait un pays dans une zone à peu près sûr d'un point de vue français, à moins de 4 heures de vol de l'escale qu'il venait de faire, qui était à Benghazi, il n'y avait pas énormément.
Beaucoup de gens disent que tout était prêt, les sacs de couchage, l'endroit où ils allaient être, les terroristes qui étaient déjà sur place. Ça semble quand même bizarre comme explication.
C'est une histoire extrêmement mystérieuse. Il y a encore beaucoup, beaucoup de non-dits, notamment sur la présence d'un quatrième commando qui aura en fait préparé l'opération directement dans le pays. Les motivations d'Amin sont tout sauf claires. Ce qui est encore moins clair, c'est pourquoi il n'a pas réagi, pourquoi il n'a pas envoyé sa chasse, qui était pas très forte, mais qui existait. Pourquoi a-t-il disparu pendant l'opération elle-même? Pourquoi les Israéliens n'ont-ils pas cherché à le capturer vivant ou à le tuer, comme il en était question? Ils sont quand même pénétrés dans son palais qui est en bordure de l'aéroport. Il y a beaucoup, beaucoup de mystères non encore élucidés.
Est-ce que l'Ouganda a fait l'inventaire de ce qu'a fait Idi Amin Dada, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose dont on ne parle pas beaucoup?
L'Ouganda a une drôle de relation avec Idi Amin Dada, parce que d'une part, il y a eu ces massacres horribles, la population. Il a laissé un souvenir épouvantable, dont d'ailleurs, incidemment, les musulmans ont pâti, puisqu'ils ont mis beaucoup de temps à rétablir une image à peu près neutre dans le pays. La population, comme j'ai dit, est extrêmement jeune. Elle n'a plus beaucoup d'intérêt pour cette histoire.
Mais il n'y a pas un droit d'inventaire sur ce qu'il a fait ?
Si, mais il n'est pas vraiment exercé. À la limite, c'est le gouvernement actuel qui se donne un certain mal pour montrer les horreurs qu'a commises Idi Amin, tout en intégrant un certain nombre d'anciens dignitaires du régime, dont le propre fils d'Idi Amin, qui a un rôle très important dans les services secrets aujourd'hui. Donc c'est un peu ambigu tout cela. Mais le droit d'inventaire, l'inventaire positif, il est vite fait, il n'y en a pratiquement pas. L'inventaire négatif, oui, il est dans tous les esprits. Il y a une exposition à Kampala, qui est juste avant le Covid, qui montrait des photos des exactions d'Idi Amin. Les enfants des écoles étaient conviés à la regarder, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses de disponibles.
Jean-Louis de Montesquieu, sur Amin Dada, il y a deux choses, on va terminer avec ça. D'abord, c'est le nombre de femmes, le nombre d'enfants qu'il a. C'est énorme, il est, c'est un performeur au niveau sexuel, Amin Dada.
Il a... Ah oui, ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. il a certainement plus de 60 enfants. On continue à en découvrir, je dirais presque tous les ans. Ah. Et par ailleurs, oui, il a eu un nombre incalculable de femmes qu'il a traitées, certaines absolument abominablement, puisqu'il y a des histoires épouvantables, notamment d'une cette malheureuse épouse qui a été tuée, puis infidèle, qui a été tuée, puis découpée en morceaux, puis recousue pour qu'elle soit montrée à ses enfants. Ouais. Et tout ça est attesté, photo à l'appui, tout ce qu'on voudra.
Alors, deuxième chose qui est intéressante aussi dans l'histoire d'Idi Amin Dada, c'est le volet économique. Malgré les augmentations de prix des matières premières, comme on dit aujourd'hui, au niveau économique, ça a été une catastrophe, le règne d'Idi Amin Dada.
Ah, il a pulvérisé l'économie de ce pays qui était relativement prospère.
C'est une mauvaise gestion, une gestion archaïque?
Alors, ça, la grande erreur qui explique pratiquement 99% du problème, c'est que dans le système anglais, au sommet de la pyramide, il y avait les Anglais qui dirigeaient, mais qui étaient relativement peu nombreux. Au bas de la pyramide, il y avait les populations africaines qui avaient des fonctions relativement modestes, plutôt manuelles. Et entre les deux, il y avait une population indienne extrêmement entreprenante, extrêmement bien éduquée, qui jouait le rôle de relais, c'est ce qui est appelé le sandwich colonial, entre les colonisateurs et le reste du pays, et qui assurait tout, à la fois la gestion administrative, les finances, le commerce, la petite industrie qui existait, le commerce de détail, ce qui est absolument capital dans ce pays où il y avait de mauvaises routes. Et en 72, il les a expulsés brutalement tous, c'est-à-dire à peu près 80 000 personnes, en quelques mois, laissant le pays pour confier les biens indiens aux militaires, et ça a été une gabegie instantanée. Je donne des exemples, mais qui sont absolument sidérante. Par exemple, des usines de ciment qui, faute d'entretien des machines, se sont bloquées, le ciment a figé, du coup ces usines sont devenues totalement inexploitables. Et ce pays producteur de sucre s'est retrouvé importateur de sucre.
D'accord. Alors, si il fallait, je sais que ça va être compliqué pour vous, Jean de Montesquieu, s'il fallait résumer le personnage, le règne de Amin Dada et sa mort un peu, on va dire, un peu dans un coin perdu, sans que personne ne le relève, ou presque, qu'est-ce que vous diriez ?
Un dictateur qui se singularise par deux choses. D'abord, une absence complète d'idéologie, absolument totale. Il n'était mu que par le désir de se maintenir au pouvoir. Et d'autre part, une utilisation, je dirais presque professionnel, de la cruauté, qui fait que, sans avoir pratiqué de génocide à proprement parler, il traitait les malheureux exécutés d'une façon absolument effroyable.
Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous parlez évidemment de ces exécutions, mais vous ne rentrez pas tellement dans les détails.
Parce que ce serait répétitif, et malheureusement... j'en donne assez.
Dans le Nil, l'exécution sommaire,
les tortures.
Donc vous imaginez que toutes les actions ne sont pas encore connues à notre époque. Jean-Louis
de Montesquieu. Elles sont assez connues. Il y a eu des rapports à l'ONU et la Commission internationale des juristes. Non, on connaît bien les détails, malheureusement, mais c'est toujours la même chose.
Alors, Jean-Louis de Montesquieu, vos projets, il y a un livre en écriture. Vous allez nous annoncer votre nouveau livre.
C'est trop tôt pour en parler.
Dites-nous, ça va être de l'histoire.
Oui, mais probablement, mais c'est encore en discussion.
Mais vous pouvez nous donner quelques infos.
Je pense qu'il faut. Je continue à me tourner vers les. Je ne dirais pas les dictateurs en tant que tels, mais les personnages.
En couleur.
Plutôt saisissants de l'histoire et derrière ça, les mécanismes qui font que ils sont tolérés et encouragés parfois même.
Donc on aura un nouveau...
La Corée du Nord, qui est un bon exemple de dictature, mais de dictature à base idéologique, ce qui est
évidemment
déjà un cran différent.
Jean-Louis de Montesquieu, Amin Dada, aux éditions Perrin, c'est une biographie extrêmement intéressante, très très documentée, il y a plein d'infos. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et donc, si vous aimez Amin Dada, si vous aimez l'histoire contemporaine, c'est un livre à avoir dans votre bibliothèque. Merci beaucoup, Monsieur de Montesquieu, et à très très bientôt. Et merci à Lucas.
Merci Monsieur Chekroun.
Merci beaucoup à vous et merci à Lucas pour la réalisation technique. À vous tous, bonne semaine. À la semaine prochaine.